Je me déplace sur deux jambes.
Il y avait à nouveau des discussions politiques comme on en a rarement en fait.
De la bande organisée à la bande
organisée. À savoir, quelque chose doit revenir.
Que voilà, à Bordeaux aussi, c'est possible. Juste tu bois un coup et pouf, une manif qui déboule et en plus.
Bordeaux métropole.
La rue Clébert, elle commence à dépaver totalement. Tous les parcs à enfants ont été démantelés.
Alors, tout le monde a le couteau à la main, tout le monde vend de la drogue.
Ça m'a l'air d'être une bande organisée, très organisée. Super play.
Radio Potlatch, un dimanche sur deux à 16h30, 90.1 sur la clé des ondes. Et maintenant, on entre dans la deuxième partie de l'émission où on rediffuse des sujets qui ont été diffusés précédemment. Là, il s'agissait d'une captation sonore du moment de la finale de la Coupe d'Europe de foot entre la France et le Portugal. Et nous étions Cours de l'Isère, là où il y a beaucoup de bars portugais, qui étaient en grande fête ce soir-là.
Alors maintenant, on enchaîne un peu bizarrement, mais on va le faire quand même. Il y a eu, il y a quelques jours, une finale improbable entre le Cours de l'Isère et Bordeaux. Une finale de football. Enfin, il semblerait de football. Et donc on a enregistré du son de cette soirée-là, qui sera un formidable récit de ce qui s'est passé. Et je pense qu'il y a juste une anecdote qui doit être racontée. Il y a eu un moment où le Cours d'Isère était blindé de monde et il y avait un gros camion de maçonnerie évidemment qui était là et qui allait ouvrir le cortège d'un défilé un peu sauvage dans Bordeaux. Et il voulait sortir de l'enclave qui était créée par les flics à ce moment-là, une sorte de pauvre bagnole de flics qui s'était mise de travers. Et il décide d'ouvrir la voie à ce camion de maçonnerie. Et donc, ils sont deux flics. Il y en a un qui est dans la voiture, qui est au volant. L'autre qui est derrière, qui guide son collègue. Et il va finir petit à petit, mais alors vraiment petit à petit, mais doucement mais sûrement, juste écrasé entre la bagnole de flic et conduite par son collègue et une bagnole garée derrière. Là, c'était un peu un des moments extrêmement drôles de cette soirée-là. On enchaîne maintenant avec le son du Cours de l'Isère. Écoutez bien, mes petits chatons.
Thank you.
combien aujourd'hui?
10, non?
Ok, le 10 juillet, le Cours de l'Isère a gagné contre Bordeaux. Et ça, c'est une vraie victoire. On est vraiment satisfait de ça.
Ouais,
c'est l'ambiance de feu.
Et plus qu'un zéro, quoi.
Ouais.
La rue Kléber, elle commence à être dépavée totalement. Tous les parcs à enfants ont été démantelés. Bon, de toute façon, personne n'y allait.
Et du coup, les enfants courent partout.
Voilà.
Ils jettent des pétards.
Et se sont, du coup, réappropriés le cours de l'hiver.
Voilà.
Toutes les cloisons des appartements et d'étudiants ont été complètement défoncées. C'est devenu partout les énormes appartes comme c'était avant. On a des couteaux à la main.
Voilà, tout le monde a des couteaux à la main, tout le monde vend de la drogue.
Ça m'a l'air d'être une bande organisée, très organisée, qui se fait appeler Portugal. Qui n'a absolument rien à voir avec le Portugal.
Alors, maintenant, le sujet suivant, c'est, je crois, une des premières chroniques des concerts ratés. Donc voilà, c'était une soirée au bootleg.
Je devais faire une chronique d'un concert, d'un trio de jazz que j'aime beaucoup, un trio saxophone basse batterie italien. Voilà, j'ai échoué dans cette tâche de la chronique. Voilà, en tout cas, bon, il y a quand même un extrait sonore de quelque chose. Voilà.
Bon, c'est l'échec. Par manque d'informations et parce que toutes les salles de concert de Bordeaux se ressemblent, et que donc l'information n'était pas forcément nécessaire non plus, le concert est à 10 balles avec 3 euros d'abonnement. Je comprends pas ce que c'est. Enfin 7 balles avec 3 euros d'abonnement. Voilà, l'entrée, il y a des hipsters. Et puis ceux qui font les entrées sont des hipsters aussi, avec 3 MacBook posés sur le comptoir, histoire d'afficher un peu le style. Voilà. La sécu, tout ça, enfin, tout un tas de merde qui donne pas vraiment envie de passer une bonne soirée. Ben voilà. Bon bah on se dirige vers ailleurs et on se dirige vers 3 camions de GM. Voilà, donc peut-être que la soirée va basculer. J'espère. Voilà, on verra plus tard.
Attends, mais c'est devant le camion.
A plus tard la radio.
C'est les supporters là-bas. On va voir.
Ah ouais, on va aller voir un groupe de supporters. Il y a des camions de GM, des ambulances. C'est parti.
Et maintenant, donc encore un sujet en rediffusion, c'est, il était diffusé pendant une thématique sur les habitations, et c'était sur la notion de kleptoparasitisme. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que le kleptoparasitisme, vous avez maintenant 17 minutes pour le comprendre.
Il y a quelque chose qui me chiffonne.
Aujourd'hui, mais qu'est-ce que le kleptoparasitisme ?
Les enquêtes de V.
Machiavélique, le coco.
Ça va fuser les potins, les ragots. C'est ma profession, moi, de témoigner. Mes témoignages, c'est pas de l'atome.
Alors, si vous meniez l'enquête, qu'est-ce que vous feriez ?
J'obtiendrais certainement des résultats plus rapides.
Encore heureux que t'as pas dit où en était l'enquête, parce que vu qu'on est au point zéro, si tu l'avais dit, on passait pour des buzards.
Un banc de poissons, une meute de loups, un essaim d'abeilles, un murmure d'étourneaux. Une troupe d'ânes, une assemblée de babouins, un panier de crabes, une colonie de fourmis, une volée de moineaux, une compagnie de perdrix, une échouerie de phoques, une harde de cerfs, un nuage de sauterelles, un nœud de vipères, une nichée de souris, un troupeau d'éléphants, une flamboyance de flamands, un parlement de hiboux, une nuée de papillons, une foule de kangourous, une perchée de goglus, une troupe de lions, une congrégation d'alligators, une ostentation de paons, une remonte de saumons, un frais de petits poissons, un vol de coucou.
Piotr est un pseudonyme. Les coucous d'aujourd'hui n'ont pas bonne presse.
Ici, on est un peu dans votre nid, en quelque sorte. Là, on est dans la cuisine. Est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu l'endroit ?
Bah, tout est blanc, quoi, et un peu délabré, peut-être pas quand tu regardes le toit, mais il y a eu des réparations de faites. Là, on a repeint le mur qui est derrière vous. Ouais. On a juste ce mur-là. Là, on a mis des étagères. Ouais, enfin, on est en train de reconstruire un peu le nid, quoi.
D'accord, et donc vous vous sentez, ça y est, vous vous sentez chez vous.
Ouais, on est chez nous, là. Là, on est chez nous.
À la base, c'est pas chez vous.
Bah ouais, c'est pas chez nous à la base, mais on va dire que de fait, on y est, donc c'est chez nous.
Alors, expliquez-moi un peu comment, comment vous y êtes pris, qu'est-ce que c'est que cet endroit ?
Bah, alors, cette habitation-là, quand on est allé, elle était vide, hein. Elle était vide, il n'y avait personne. Du coup, on est rentré. Du coup, on est passé par les toits, on est descendu, on a vu que le lieu n'était pas habité. Il me semble qu'il n'était pas habité. Donc, on s'est dit, bon, on peut poser un verrou, il y a moyen qu'on garde le lieu pour nous, qu'on y pose nos marques. Donc, on a commencé à faire.
Mais il y avait personne dans le lieu quand vous êtes rentré dedans ?
Non, il n'y avait personne.
Il n'y avait personne, d'accord.
Non, il n'y avait personne.
Ah, parce qu'en fait, moi, j'enquête sur le kleptoparasitisme. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce que c'est.
Expliquez-moi.
Un kleptoparasite est un animal qui se nourrit aux dépens de la production ou des réserves accumulées par un autre animal, telles des proies capturées ou des provisions mises de côté. Ce parasitisme se rencontre chez certains insectes, plusieurs espèces d'abeilles ou de coléoptères, ou encore chez des oiseaux. Une forme particulière de kleptoparasitisme est pratiquée par certaines espèces d'oiseaux, comme les coucous, qui pondent dans le nid d'autres espèces.
les couples d'individus des espèces parasitées, dupes de la supercherie, couvent l'ensemble des œufs et nourrissent l'envahisseur. Ce stratagème fonctionne d'autant que la période d'incubation du parasite est plus courte que celle des parasités. L'oisillon du coucou gris, parasite bien connu, étant plus gros et plus fort que les espèces parasitées, jette en dehors du nid les autres oisillons ou les œufs non encore éclos, de façon à obtenir toute l'attention de ses hôtes.
Mais alors vous, du coup, vous, quand vous entrez, c'est vide. C'est quand même une différence.
Oui, c'est vide. Enfin, il peut y avoir parfois des restes d'habitation, mais la plupart du temps, c'est vide.
D'accord, mais vous jetez pas des gens par les fenêtres, pour être tout à fait clair.
Je pense que le coucou va beaucoup plus loin.
Une autre question. Est-ce que vous avez eu l'idée de faire ça en regardant des documentaires animaliers?
En fait, l'idée d'habiter ce lieu-là et aussi d'habiter d'autres lieux... Peut-être pas en regardant un documentaire animalier, mais peut-être en s'inspirant de la biodiversité des écosystèmes et notamment de comment certains animaux s'y prennent pour justement habiter leur espace. Et peut-être que oui, on a été pris justement intrinsèquement par
ces dispositifs. Peut-être inconsciemment, parce que dans votre vie, vous avez regardé déjà des documentaires animaliers.
Plusieurs, voilà. Les oiseaux aussi.
Donc il y a peut-être un lien de ce côté-là. Parce que j'ai remarqué un truc intéressant. C'est donc la femelle coucou qui, lorsqu'elle pond dans le nid de son hôte, elle ne doit à tout prix jamais se faire surprendre, sinon elle condamne sa progéniture. J'avais compris qu'il y avait certaines similitudes, c'est-à-dire que vous ne devez pas non plus vous faire prendre en flagrant délit quand vous.
Quand on essaie de s'approprier les lieux qui sont pour nous vides, tout l'enjeu c'est justement de le faire en toute discrétion, de s'y établir en discrétion, de commencer à l'habiter en discrétion pour pouvoir ensuite, du coup, l'ouvrir vers l'extérieur et que le lieu soit reconnu. Mais préalablement, il faut justement pour ça que le lieu soit vide, que personne ne sache que nous prenons ce lieu-là, pour ensuite lancer ce qu'on appelle la procédure. Mais justement, oui, voilà, si on commence à rentrer dans le lieu alors qu'il y a une personne qui nous prend au dépourvu, à ce moment-là, c'est foiré, quoi.
Un proverbe très connu à propos du coucou, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Si on a de l'argent dans sa poche, quand on entend le coucou chanter pour la première fois, c'est signe qu'on en aura toute l'année. Donc autrement dit, que le coucou rend riche. Pensez-vous que c'est vrai?
Ah ouais, clairement. On vit gratuit, quoi. C'est la vie gratuite. C'est l'électricité qui tombe du ciel, c'est l'eau qui tombe du ciel, c'est l'eau chaude qui tombe du ciel. Ah oui, ben voilà, c'est ça. On a un mode de vie coucou, quoi. On a un mode de vie parasitaire.
Travailler. Ah, j'attendais ça. Le maître mot. L'explication de tout. Voilà 40 ans que tu travailles et que je ne fais rien. Que tu gagnes de l'argent et que j'en dépense. Que tu collectionnes les présidences et moi les aventures. Que tu collectionnes les présidences et moi les aventures.
Dites-moi. Croyez-vous en votre fort intérieur que vous soyez mentalement touché?
Loin de là, docteur.
Je suis même un vrai petit bijou de la science. Ah, c'est trop chouette.
Ceux qui déclarent le coucou inférieur au rossignol me paraissent incapables de sentiments et tout à fait détestables. Le rossignol ne chante pas la nuit et c'est grand dommage. Tout ce qui chante la nuit, en dehors des enfants, est ravissant. La joie de ceux qui prennent, je ne la connais pas. Et j'ai rêvé souvent qu'il devait être plus doux encore de voler que de prendre.
Est-ce que même vous irez plus loin et vous revendiquez du kleptoparasitisme ? Bon, question difficile.
Enfin, dans ce terme-là, il y a quelque chose qui m'intéresse, oui, enfin, le cryptoparasitisme, vivre aux dépens, oui, je trouve ça, oui, je pense qu'il y a une condition similaire, mais après, dans le terme parasite, parasitaire, bah, je ne me reconnais pas forcément, bah, si par parasite, on entend une forme de vie envahissante, oui et non, enfin, moi, je me retrouve plus dans ce terme-là d'occupation, d'occuper.
Envahir, entrer de force et de manière hostile, s'emparer, usurper. Occuper, être en possession de quelque chose, se vouer, prendre soin, conquérir.
Oui, je suis peut-être par certains aspects parasitaire, mais je vois plus ça comme une occupation, une réappropriation.
Est-ce que vous êtes aussi intéressé à d'autres types d'habitations ? Donc inspiré du monde animal, en allant voir par exemple du côté de l'escargot ou peut-être du Bernard l'ermite.
Qui porte leur maison sur leur dos. Ben, suite à une ancienne expérience d'habitation et d'occupation de lieux qui a mal tourné, j'ai vécu en quelque sorte la condition de l'escargot, justement de voir, ne pas avoir de chez soi, devoir avoir tout le temps le strict nécessaire à ma survie sur moi-même. Et devoir aller de lieu en lieu sans avoir de maison propre. Donc oui, je connais cette situation-là et ce n'est pas une situation que j'envisage. Parce qu'à long terme, elle est fatigante. Et...
Donc selon vous, il y aurait une corrélation entre la lenteur de l'animal et son mode d'habitat ?
Oui, clairement. Oui, la lenteur de l'escargot, il y a une corrélation avec justement son mode de vie.
Est-ce que vous saviez que le coucou volait ?
Oui. Step into my political platform shoes. Call me Chili Chaplin, 'cause I came for the clapping. From East Germany, straight to your chimney. So call me Santa Claus Kinski, presidential suite. Which one of you is gonna run against me? Come on, enter the fray, 'cause I'm also known as the AKA. But I'm also known as Trinity, 'cause I got three gonads, and I got two sides, Dr. Jekyll and Mr. Pratt. I'm a train for the campaign, to put the bubbles in your brain like champagne. So step into my political platform shoes. So step into my political platform shoes. Call me Chili Chaplin, 'cause I came for the clapping. From East Germany, straight to your chimney. So call me Santa Claus Kinski, presidential suite. Which one of you is gonna run against me? Come on, enter the fray, 'cause I'm also known as the AKA. But I'm also known as Trilogy, 'cause I got three gonads, and I got two sides, Dr. Jekyll and Mr. Pratt. I'm a train for the campaign, to put the bubbles in your brain like champagne. So step into my political platform shoes. Je suis avec Luna, qui se définit kleptoparasite et qui a réfléchi à la question.
Se définir, c'est peut-être un peu fort, mais c'est vrai que j'ai été diagnostiquée kleptoparasite et j'ai pu mettre des mots sur cette manière que j'avais d'habiter le monde. Maintenant, c'est vrai que je vis très bien avec, et oui, d'une certaine manière, j'assume d'être kleptoparasite.
Luna, la vingtaine également, porte du vernis à ongles fuchsia, assorti à son t-shirt. à la ceinture de son pantalon gris, un talkie-walkie. Luna est le pseudonyme qu'elle a pris, car elle est un peu étrange. Luna n'a pas voulu être enregistrée, par peur d'être reconnue. Des acteurs ont fidèlement retranscrit pour vous des extraits de notre brève entrevue. Alors là, nous sommes dans ce qu'on peut appeler votre nid. Arrêtez-moi si je me trompe, c'est une cave, plutôt sombre et saturée d'objets en tout genre.
Oui, et tous les objets que vous voyez là appartiennent à mes amis.
Ah bon ?
Je leur ai volé pour les mettre dans ma chambre.
Ah bon, mais ils le savent ?
Au départ, non, il faut pas qu'ils me voient. Sinon ça marche pas ou c'est pas pareil. Mais le truc, c'est d'arriver à prendre discrètement ce qui m'intéresse. Et après, évidemment, ils le voient. Ça leur arrive de passer dans ma cave et de voir de quoi est composé mon petit nid.
Habiter, c'est investir un lieu et le posséder par l'appropriation. Au sens d'y faire habiter son corps, y faire habiter ses objets, jusqu'à y reconnaître le soi. L'habitat est à la fois le nid, l'habit, le repère. Mais comment est-ce qu'ils réagissent ?
Ça peut paraître étonnant, mais ils comprennent. Pour que je puisse me sentir chez moi, en fait, quelque part, il doit forcément y avoir une part de mes amis.
Attendez, attendez. Si je comprends bien où vous voulez en venir, selon vous, le kleptoparasitisme vous rapprocherait des gens que vous volez.
Ouais, ouais, c'est ça. Et c'est même devenu contagieux. Ils se sont tous mis à faire comme moi et ça s'est étendu.
Comment ça ?
Maintenant, chez moi, personne ne peut plus avoir ne serait-ce qu'une idée sans que quelqu'un d'autre s'autorise complètement à la reprendre et sans même se soucier de qui l'avait eu en premier.
Et ça, c'est positif.
Nous nous nourrissons littéralement les uns des autres.
La disposition des objets, l'ordre ou le désordre, l'aménagement des espaces, les coins d'oubli et d'obscurité influent sur les capacités d'hospitalité, de partage, de vie commune.
Le sujet suivant revient sur la tuerie à Orlando aux États-Unis, une fusillade terroriste qui a eu lieu dans une boîte de nuit gay donc à Orlando. Et voilà, ce qui suit a été réalisé un peu dans la foulée de l'événement. Donc c'était le 12 juin de cette année. Orlando is dead. Qui est Orlando ? Le nom d'une mascarade ou d'une destinée ? Le nom d'un brave type mort au combat ou celui d'un vieil homme ratatiné ? Des indices. Orlando n'est pas de l'époque où on brûlait les homos au bûcher, ni de celle où il régnait en maître avec de beaux pages à ses pieds. Orlando ne mesure pas son pouvoir à son fric, mais à son humanité. Orlando n'est pas américain, il est super international. Orlando n'est pas vraiment mort au combat, il est mort dans sa superbe quotidienneté. Il n'était pas endormi, il dansait. Il n'était pas sauvage, il payait ses consignes. Orlando est le nom de ce type balancé du haut d'un immeuble, un ange tombé dans la mémoire collective homosexuelle du XXIe siècle. Orlando se souvient de ses morts des années 80. Orlando affiche le nom des fusillés sur le mur des lamentations cybernétiques. Orlando pleure et se mouche dans le bout de papier que l'Occident lui tend. Orlando a oublié qu'il luttait autrefois contre cette âme si charitable. Au fond, peut-être qu'Orlando n'a jamais lutté, donc il n'a rien à oublier. Peut-être a-t-il cherché à fuir et organiser sa propre survie. C'est le lot des esprits solitaires. Orlando a un corps magnifique. Orlando a perdu son corps magnifique. Tout le sang est parti dans les caniveaux, parti rejoindre ce doux néant que le pouvoir nous tisse chaque jour. Orlando avait déjà peint sa cage en doré. Orlando nique Daesh. Daesh nique Orlando. L'inversion des termes lui donne sa place dans le nouveau gauchisme, aimant la nation et les flics. Orlando se considère d'une race maudite. Peut-être a-t-il raison sur ce point. Il y a quelque chose qui cloche entre son désir et l'Empire, mais il n'a toujours pas résolu ce mystère. Orlando se lève et jette son talon aiguille dans l'œil d'un flic. Orlando vient de rêver. Orlando s'avance et ouvre la bouche pour nous dire Nous ne laisserons pas abattre. Orlando vit dans la joie. Il ne fait pas de doute que j'aurais pu être à l'intérieur d'Orlando. Orlando parfois se laisse abattre, car il ne sait plus où sont ses armes. Il se trompe souvent de complice. Il ne reconnaît plus ses camarades et ses idées. Où se sont-elles évadées ? Orlando parle à la place de sa multiplicité. Il n'était pas seul à mourir cette nuit du 12 juin. Ils étaient 49 et des poussières. Tu aurais pu être le messie qu'Orlando t'aurait rabâtissé. Tu es Orlando ou tu n'es rien. Orlando n'arrive plus à se réinventer. Orlando parvient à entendre la voix d'un fantôme. Nous ne sommes pas des homosexuels libérés et fiers de l'être. Notre homosexualité n'est pas une valeur révolutionnaire qu'il s'agirait d'étendre au monde entier, mais une situation permanente de remise en question. L'univers où se réalisera notre liberté du désir est à construire. Et le fantôme reprit sa place au paradis. Il existe un ordre et un calme que l'on veut protéger de nos belles attaques homosexuelles. Nous bondissons hors d'Orlando. Nous ne crèverons pas dans son système. Orlando is dead.
Départ à destination de Londres et New York. Vol LA-231.
Ce qui m'est arrivé ce soir-là, c'est à peine une aventure. Et pourtant, quand je repense à Paris et quand je ferme les yeux, c'est toujours cette nuit-là, ce visage-là que je revois. Comme s'il était devenu l'intermédiaire entre cette ville et moi. Dans mon propre pays, dans une société normale, c'est-à-dire bien rangée, je n'aurais jamais eu la curiosité de fréquenter ces gens-là. Je n'ai rien contre eux. Bien sûr, simplement, ils sont d'une autre galaxie. Mais ce soir-là, j'étais étranger. Ça donne des privilèges et puis il y avait la fatigue, l'alcool. Et lui, et ceux de sa même espèce, je le sais maintenant, souffrent moins d'oppression que de séparation.
Oui, quand on est sorti, il faisait presque jour. Matin, petit matin, ennemi du rimmel, enfin tu vois quoi. Toutes les 5 minutes, il m'offrait une cigarette. Il nous voit tous. Ça, bien sûr, j'étais pas très fraîche. Mais il m'apprécie pour moi-même, chérie. Pas comme un artiste de Paris, figure-toi. Avec lui, je n'ai rien à cacher. On a descendu toute l'avenue de l'Opéra. La bière, c'est le meilleur des carburants. Moi, si je bois assez, je peux faire des kilomètres. Et puis, apparemment, je m'ennuyais pas. Bon, je vois que ça te paraît fou. Mais moi, quand je traîne, c'est vraiment pour le plaisir de la rencontre. Que veux-tu? Tout le monde ne veut pas être une folle à moustache, after-chef, pim-pam-poum, fist-fucking et poutre apparente. Tu veux que je te dise? Ce qu'il aime en moi, c'est mon tragique. Je suis d'une saine civilisation. J'aurais dû naître au 19e siècle. J'ai 2000 ans.
Il avait beaucoup de culture, mais un vrai patchwork, avec des contradictions bizarres. Il m'a montré un boost grec, un conducteur de char, dans une boutique sur l'avenue, en disant qu'il était amoureux. Je lui ai parlé de New York, du village, mais il m'a dit qu'il n'y avait pas trop aimé, justement parce que c'était trop fait exprès pour eux, qui s'y retrouvaient entre soi. Il disait aussi qu'il préférait encore se faire agresser par un voyou plutôt que de faire des ligues de défense ou d'appeler la police. Ça avait l'air de lui faire de la peine, l'évolution actuelle. Moi, ça m'étonnait. J'aurais pensé juste le contraire. Il disait contre eux, des gens comme lui et des loubas ou des arabes, il y avait des tas de liens. Et puis, que s'ils se mettaient à se poser en victime, forcément, ça couperait ses liens, cette communauté des marginaux. Pour quelqu'un de Manhattan, il était un peu étardé. Il devait avoir trop lu ses romans 1901, alors qu'aujourd'hui, les gay people que je connais, c'est plutôt cocaine et champagne et disco. Mais ça m'a touché, c'était un peu naïf, très continental, cette idée d'être malgré tout un outlaw.
I'm a baby's got a book on the kid with picked out teeth. Cuddled, then rejected, stolen, given back. I'm a jumper on the wrong one.
paralyzed, then simply just embrace it and make it part of what you are. Gay is the new punk. We don't give a fuck about dying while we're young. Gay is the new punk. Fuck me up and over and kill me when we come. No, we don't give a fuck about dying while we're young. So just fuck me up and over and kill me when we come. And sisters, we will no longer let others decide who is top and who is bottom in this society, who is fucking who is getting fucked and what it makes of you. No, we don't want your eternal life, not even your 40 years and a prosperous career. We find no value in the future, we just want to get fucked up and get fucked over now and today. Gay is the new punk. We don't give a fuck about dying while we're young. Gay is the new punk. Fuck me up and over and kill me when we come. No, we don't give a fuck about dying while we're young. So just fuck me up and over and kill me when we come. Choose, I want sex and drugs and cum and booze. I'm not a fucking victim, I live as I choose. I want sex and drugs and cum and booze. Gay is the new punk.